Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver tous les deux. Beaucoup de sujets à aborder, des sujets graves et bien sûr d'abord ce qui se passe aux États-Unis en ce moment même. L'onde de choc provoquée par le meurtre raciste de George Floyd aux États-Unis, tué en plein jour, en pleine rue, par un policier de Minneapolis. C'était le 25 mai dernier.
C'est terrible, c'est triste, j'en ai pleuré. Combien de policiers s'en tirent après avoir tué un Afro-Américain? Les gens en ont marre, il est temps que ça change, c'est le début du changement. Je parle de ça depuis 5 jours, mais je n'ai toujours pas les mots, ça fait mal.
Je suis le président de la loi et de l'ordre, et l'allié de tous ceux qui veulent manifester pacifiquement. Mais ces derniers jours, notre nation a été la proie d'anarchistes professionnels. Nous allons stopper les émeutes et les actions illégales en cours dans ce pays. On va les stopper maintenant.
Et 12 jours après, la contestation continue, et vous l'entendiez dans le flash d'Alexandra Dubouchereau, le ton martial de Donald Trump n'empêchera pas une nouvelle manifestation prévue cet après-midi dans la capitale américaine à Washington DC. D'autres auront lieu ailleurs dans le pays et dans le monde entier. Natacha Polony, quel regard portez-vous sur ce qui se passe aux États-Unis?
Je crois que ce qui est surtout frappant, c'est le fait que éclate là l'impossibilité, l'incapacité des États-Unis à sortir de ce problème. C'est-à-dire que l'élection d'un président noir n'avait apporté qu'un symbole. Barack Obama n'a pas réussi, a-t-il seulement suffisamment essayé de régler cette question, elle est en train de gangréner la vie américaine, avec en arrière-fond ce rapport très particulier aux armes qui existent aux États-Unis et qui là aussi rend les choses beaucoup plus compliquées, puisque le recours à la violence des policiers américains est quelque chose d'extrêmement spécifique, hein, qui est lié justement au fait qu'ils ils ont en tête l'idée que l'autre en face peut porter une arme, peut être dangereux. Il y a quelque chose là-dedans qui est extrêmement malsain. Et derrière ça, encore toute l'histoire de la ségrégation raciale. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le mouvement Black Lives Matter est en train de se confronter à ce qui est l'histoire du mouvement d'émancipation raciale aux États-Unis, c'est-à-dire une confrontation entre ceux qui pensent que finalement, il faut balayer le système et que rien ne viendra pacifiquement et qu'il faut une révolte, et ceux qui veulent demeurer pacifiques. Et on retrouve l'opposition entre Martin Luther King et Malcolm X qui se renoue aujourd'hui, puisqu'il y a un mouvement qui est en train de contester la dimension, non pas violente, mais en tout cas fortement révolutionnaire des manifestations. Il y a une fracturation. Et il va falloir regarder cela avec attention, parce que on va en parler, mais ça a désormais un impact jusque chez nous.
On va y venir justement, à l'impact et à l'onde de choc planétaire qui est arrivée jusqu'en France et jusqu'à Paris notamment. Gilles Finkelstein.
Oui, il y a la dimension sociétale qu'a évoqué Natacha Polony, et il y a la dimension politique, et on a entendu le son de Donald Trump. Sur la dimension sociétale, je partage ce qu'a dit Natacha Polony en ajoutant, parce qu'on les critique souvent, le rôle très positif qu'ont joué les réseaux sociaux une nouvelle fois dans cette affaire. Il n'y a pas de débat sur le crime lui-même, c'est un grand progrès. Les réseaux sociaux ont permis, parce qu'ils existaient, de protéger les manifestants. Et je crois qu'ils ont aussi permis de faire prendre conscience aux Blancs du racisme au quotidien qui était celui de l'Amérique. Après, c'est vrai que cette incapacité des États-Unis à sortir de ce problème, qui est un problème vraiment qui vient de l'origine de ce pays. J'ai été très frappé quand j'avais lu le dernier livre de Thomas Piketty. Il racontait qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, ceux qui avaient été indemnisés n'avaient pas été les esclaves, mais les esclavagistes. Donc c'est un problème qui vient de très loin, qui n'a pas été résolu, y compris par les démocrates, y compris par Barack Obama, et qui traverse, qui divise une société américaine qui est très polarisée, y compris et d'abord sur cette question-là. L'autre dimension qui me paraît très importante est celle de ses conséquences politiques. Tant on mesure au travers des réactions de Donald Trump à quel point il est engagé dans une sorte de fuite en avant qui n'a plus de limites. Et je crois que la réflexion sur les conséquences que peut avoir cette affaire est un sujet d'intérêt à la fois américain mais d'intérêt mondial. Il faut se souvenir qu'il y a 3 mois à peine, vu par Donald Trump, en tout cas, sa situation était solide. Il avait un socle électoral qui était très stable et il avait un bilan qu'il pouvait défendre qui était considéré comme flatteur. Et puis il y a eu le Covid et puis il y a eu George Floyd. Et là, il y a une fuite en avant avec, pour la première fois, un Donald Trump qui doit gérer une crise qu'il n'a pas lui-même générée. Une crise qu'il subit et une crise au cours de laquelle il démontre, je parle de la crise du Covid, une absence absolue d'empathie envers les Américains, et au travers des 2 crises, son caractère totalement autocentré, son isolement de plus en plus abyssal, son incompétence qui de plus en plus se révèle comme dans un film, comme dans une photo de plus en plus aux Américains. Et pendant longtemps, on a sous-estimé Donald Trump. Peut-être qu'on ne mesure pas aujourd'hui à quel point il est en difficulté. Il y a eu le law and order qui est la seule réaction qu'il a eue, la loi et l'ordre, rien d'autre, aucun appel à l'unité, aucune solution politique. Il y a eu surtout le fait qu'il ait fait gazer des manifestants pacifiques pour pouvoir aller dans l'église et le fait qu'il ait agité...
Oui, de l'autre côté de la rue de la Maison-Blanche.
Exactement, et le fait qu'il ait agité la perspective de l'utilisation de la loi d'insurrection, c'est-à-dire d'amener les troupes fédérales pour rétablir l'ordre contre les gouverneurs eux-mêmes. Sur ces 3 décisions-là, le law and order, le gazage des manifestants, la loi d'insurrection, Donald Trump a été en rupture avec, y compris ses plus proches. On a vu quand même l'ancien secrétaire à la Défense prendre ses distances et l'actuel secrétaire à la Défense marqué sur ce point aussi son désaccord, tous les chefs des armées prendre leur distance. Et donc, je crois qu'on a là un Donald Trump qui est affaibli. Ça ne veut pas dire du tout qu'il va être battu, mais il est vraiment affaibli.
Avant de revenir en France, Natacha, comment expliquer que ce soit cet événement-là qui ait suscité l'embrasement, que ce soit ce crime-là parce qu'un homme noir tué par un policier blanc aux États-Unis, ça n'est ni le premier, ni malheureusement sans doute le dernier. La vidéo, elle est devenue virale immédiatement. On a tous vu ces images insoutenables et cette vidéo, évidemment, elle est extrêmement forte, mais c'est la puissance de cette image-là qui a fait que l'histoire a connu un tel retentissement?
Je pense que il y a, on ne mesure jamais la part de, comment dire, de d'impossibilité à décider que tel événement va être plus important que tel autre. Gilles vient de le dire, les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur. Il y a cette vidéo, le fait que cela ait pu être tourné, la personnalité du policier aussi qui est un multirécidiviste des arrestations violentes. Je veux dire qu'il y a une personnalité visiblement problématique sans que jamais la justice n'en est tenue compte. Donc tout ça s'est conjugué. Mais ce qui est frappant aussi, c'est le fait que tout cela arrive pendant le mandat de Donald Trump. C'est-à-dire que ce même événement avec un président qui ne serait pas Donald Trump n'aurait peut-être pas pris autant d'ampleur parce que le président, dans ces cas-là, aurait su réagir. Donald Trump n'est... Enfin, on aurait tort de croire que tout vient de lui, il est là actuellement comme le coupable idéal. C'est-à-dire qu'en effet, il est en train de fracturer encore plus la nation américaine. Il est incapable de gérer des crises et c'en est non seulement consternant, mais problématique. Mais Donald Trump est lui-même un symptôme et rien de plus qu'un symptôme de la fracturation et de la destruction intérieure de la société américaine, d'où le fait que justement il est particulièrement incapable de réagir face à cela, puisqu'il a été élu comme le résultat de cette fracturation qui s'opère depuis des années déjà. Mais ce qui est inquiétant, c'est en effet que il est un symptôme, mais que ses réactions sont en train d'amplifier cette fracture, et que ce qui est le plus frappant est le fait qu'il dresse véritablement les Américains encore un peu plus les uns contre les autres, jusqu'à un point qui peut être un point de non-retour.
Et un point de non-retour aux États-Unis, en tout cas une histoire qui a connu un écho ailleurs dans le monde, que ce soit en Corée, à Hong Kong, des manifestations ont eu lieu au Royaume-Uni, on a entendu les mots extrêmement durs de condamnation d'Angela Merkel, le silence embarrassé de Justin Trudeau, les mots du pape, et en France, justement, une histoire qui est devenue aussi une histoire française.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Ce combat, on ne le lâchera pas, c'est pour un combat.
Je suis là pour la même raison que tout le monde, parce qu'on en a assez. Et parce que je suis noire, et parce que j'ai envie d'être considérée comme n'importe qui d'autre. On n'a pas la même histoire avec les États-Unis. Chez eux, ça a toujours été beaucoup plus violent. Mais ça n'empêche qu'ici aussi, il y a ce racisme en fait qui est construit dans les bases, dans la fondation de notre société.
Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque accès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction.
Mardi dernier, 20 000 personnes au moins manifestaient à Paris à l'appel du collectif Justice pour Adama Traoré, ce jeune homme noir de 24 ans qui est mort il y a 4 ans après une interpellation policière. On a vu au cours de cette manifestation, de ce rassemblement, des symboles, des mots d'ordre qui étaient directement empruntés à ce qui s'était passé aux États-Unis, le hashtag Black Lives Matter. Il y a eu aussi ceux qui avaient mis le genou au sol, ceux qui se référaient au meurtre de Floyd. Gilles, est-ce que vous comprenez justement qu'il y ait un écho en France de ce qui s'est passé aux États-Unis, considérant que, bien sûr, le racisme existe partout, bien sûr, les violences policières sont une réalité des deux côtés de l'Atlantique, mais il n'y a pas la même histoire, les deux sociétés n'ont pas le même rapport à leur passé. Gilles.
Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Les deux pays n'ont pas la même histoire, n'ont pas le rapport, n'ont pas la même organisation de la société. La société américaine est réellement organisée autour de communautés. Le modèle républicain se fait à partir des citoyens. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que ce qui s'est passé, et c'est très important de le noter, est extrêmement significatif. Il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de monde à Paris, il y a eu beaucoup de monde en province. Ça, ce qui s'est passé a rencontré un écho dans une grande partie de la jeunesse, et pas seulement chez les jeunes noirs, et pas seulement dans les banlieues populaires. Il y a, on l'a déjà évoqué de nombreuses fois ici, un problème croissant de confiance de la population, d'une partie de plus en plus importante envers la police. On a eu une baisse spectaculaire depuis un an de la confiance envers la police. La confiance est plus faible que dans beaucoup d'autres pays européens. Et il y a, on l'a évoqué aussi, toutes les enquêtes montrent que les discriminations sont une réalité, et que notamment la discrimination des contrôles au faciès est aussi une réalité. Donc tout ça est le fond français dans un contexte qui est un contexte qui va au-delà. Il y a évidemment ce qui s'est passé aux États-Unis qui a pu jouer sur cette manifestation, mais tout ça est le contexte qui est un contexte purement français.
Et il faut ajouter, Gilles, je vous interromps juste une seconde, ce qu'ont ajouté des sites d'information, je pense à Mediapart, je pense à Street Press, qui révélaient non seulement de nombreux discours racistes de la part de policiers ou de gendarmes, mais même un groupe sur Facebook où plus de 8000 policiers et gendarmes échangeaient des propos, des images ouvertement racistes, sexistes, homophobes. Christophe Castaner a d'ailleurs saisi le parquet de Paris pour qu'il ouvre une enquête à ce sujet. Je referme la parenthèse.
Oui, après, la question, maintenant la question qui est devant nous, c'est qu'est-ce que l'on fait dans cette situation ? Et pour aller vite. Je pense, un, qu'il faut refuser le déni. Le mot violence policière est, je crois, ne doit pas être écarté. Et les images des violences policières, je voyais la proposition de Ciotti d'interdire de filmer. Je crois que ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Deux, il faut rétablir la confiance entre la population et la police et tout mettre sur la table. Les techniques policières, la nature des relations, les contre-pouvoirs policiers. Et trois, je termine par là, il faut réinstituer un pouvoir politique. Aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a une forme de dette morale du pouvoir politique envers les policiers qui sont surmobilisés, peut-être parce qu'il y a aussi une dette financière, on a le sentiment trop souvent que le pouvoir politique ne dirige pas mais suit la police. Il faut là aussi retrouver la bonne distance. Et puis le dernier point, le plus important et le plus difficile, c'est de rebâtir la promesse républicaine, parce que tout ça a aussi pour origine le fait que je disais tout à l'heure, la société américaine n'est pas la société française, mais il faut que la promesse républicaine soit tenue, et elle ne l'est pas, et si elle ne l'est pas, eh bien nous allons nous aussi verser de plus en plus vers les identitarismes.
Natacha Polony.
Oui, je pense qu'il y a en fait différents problèmes qui se conjuguent. Gilles a très bien parlé de la question purement policière, et de fait, il faut regarder les choses en face. Il y a des violences policières. Les épisodes des gilets jaunes ont prouvé d'ailleurs que ces violences n'étaient pas seulement dirigées contre des gens de couleur, mais qu'il y avait une mauvaise gestion du rapport aux citoyens. Et en effet, il y a aussi des comportements racistes de la part de certains policiers. Pas tous, mais de la part de certains policiers.
Vous ne diriez pas racisme systémique, ou vous ne diriez pas que la police française est raciste?
Alors, justement, c'est en effet, ça c'est le produit aussi d'une dégradation des relations entre la police et les citoyens, notamment dans certains quartiers où les policiers subissent des violences eux aussi qui sont absolument inacceptables, et tout ça est en train de se dégrader de façon extrêmement dangereuse. Il y a des outils, Gilles en a cité quelques-uns, on peut ajouter la mise en place d'une véritable police de proximité, enfin il y aurait beaucoup de choses à faire, une reconstruction de la carte entre police et gendarmerie, enfin il y aurait énormément de choses à faire, mais ce n'est qu'un des volets, parce que je pense que cette manifestation est extrêmement importante. 20 000 personnes, c'est beaucoup.
Oui.
C'est vraiment beaucoup. Et qu'il y avait des publics très divers, en fait, dans cette manifestation. Et il y a toute une part de la jeunesse qui est venue là, qui n'est pas politisée, et qui est venue pour une demande, en effet, de justice, d'égalité, en faisant un lien spontané avec ce qui se passe aux États-Unis, dans une forme de, j'allais dire presque de mélange, dans la mesure où l'uniformisation de la planète à travers la culture de masse américaine fait que les différences historiques ne sont peut-être pas forcément perçues et pensées, et que du coup la différence dont parlait Gilles entre l'organisation de la société aux États-Unis et l'organisation de la société en France, la façon d'être ensemble, n'est pas forcément perçue par une part de la jeunesse. Tout cela devient un seul et même ensemble. Or, je pense que ça pose problème parce que justement les problèmes ne sont pas les mêmes, ne sont pas exactement les mêmes. Autant, dans les dom-toms, il y a quelque chose qui peut ressembler à ce qui se passe aux États-Unis, et les mouvements qu'on a vus contre la mémoire de Victor Schœlcher sont particulièrement frappants. Parce que là, et en effet, la question de l'indemnisation des esclavagistes et pas des esclaves se pose de manière un peu semblable à ce qui peut se passer aux États-Unis, mais sur le territoire de la métropole, ce n'est pas exactement la même chose. Or, face à toute cette jeunesse qui vient par un élan de demande de justice, il y a certains groupes militants qui, eux, mêlent volontairement les choses et qui veulent absolument mettre en avant des concepts qui sont les concepts antiracistes venus des États-Unis, la question du fameux privilège blanc, la question du racisme systémique. Et là, je pense que c'est un problème parce que la promesse républicaine universaliste est une réponse à la diversité des origines qui me semble la bonne. Le problème, et Gilles l'a dit, c'est l'abandon de la promesse républicaine. Il y a une dimension sociale majeure et il ne faudrait pas l'effacer. C'est-à-dire que dans un pays où il n'y a aucun ascenseur social, dans un pays où quand on est dans un milieu populaire, dans un quartier difficile, on n'a rigoureusement aucune chance de s'en sortir, de franchir les échelons de l'échelle sociale, évidemment que la frustration et la colère peut se transformer en une colère contre ce qui est considéré comme un faux universalisme. Donc la question sociale, la question urbanistique doivent être réintroduites. Et Emmanuel Macron avait cru que un peu facilement, en fournissant des emplois de chauffeur Uber dans les banlieues, on allait régler par miracle tout ça. Non, ça ne suffit pas. Et il faut un immense plan pour les banlieues, parce que sinon, ça va se transformer en, sous le fait justement de certains qui intellectuellement veulent absolument en finir avec l'universalisme républicain, ça va se transformer en une fracturation de la société française qui est déjà en route et qui me semble profondément dommageable.
Gilles Finkelstein, avant d'accueillir notre invité.
Écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce que je suis d'accord avec Natacha Polony.
Alors, je vous pose la question très simplement. Est-ce que vous parleriez, par exemple, de racisme systémique dans la police française? Est-ce que l'expression de privilège blanc qui est régulièrement utilisée aux États-Unis et qui ne suscite pas énormément de débats vous gêne, ou est-ce que vous l'emploieriez vous aussi pour parler de la France et d'expérience française pour le coup?
Non, je trouve qu'il y a une importation des concepts et des analyses américains qui ne correspondent pas ni à notre histoire ni à notre situation, mais que si on veut dénaturaliser les origines ethniques, eh bien ça se transcende par un projet politique et par une action beaucoup plus vigoureuse. Natacha Polony l'a dit, pour redonner une chance à chacun et faire en sorte que les assignations identitaires soient moins fortes qu'elles ne le sont aujourd'hui.